Nous continuons notre investigation concernant l'esprit de l'égalité dans les révolutions françaises et américaines. J'ai expliqué dans les premières séances que cet esprit de l'égalité devait être compris sur le mode d'une relation égalitaire, beaucoup plus que d'une répartition ou d'une distribution. Et que cette représentation de l'égalité s'organisait autour de trois figures. La figure du monde des semblables, la figure de la société des individus indépendants et la figure de la communauté des citoyens. Dans cette heure, je vais continuer l'investigation concernant la société, le monde des semblables, à partir d'une réflexion sur les conditions dans lesquelles était réfléchie la vie en semblable. Car le problème n'est pas simplement d'être des semblables, c'est de vivre en semblable. On sait que c'est Tocqueville qui a rendu célèbre la notion d'égalité des conditions, qui est au cœur de cette réflexion sur la similarité. Mais Tocqueville n'a pas forgé cette notion d'égalité des conditions. On la trouve d'abord formulée assez fréquemment pendant la Révolution même. Au début du XIXe siècle, le terme est fréquent chez les libéraux de la Restauration. Un Guizot parle ainsi de « communauté de conditions » pour qualifier la société moderne. Et un socialiste comme Pierre Leroux emploie aussi le terme d'égalité des conditions, indépendamment de l'auteur de la démocratie en Amérique et même avant lui. Mais cette notion, cette formule d'égalité des conditions, elle était surtout depuis longtemps utilisée négativement pour désigner un monde social anarchique. Dans son traité des ordres et des simples dignités, Charles Loiseau, qui est un des plus grands juristes français du XVIIe siècle, écrivait ainsi en introduction que nous ne pourrions jamais vivre en égalité de conditions. Seul un système hiérarchique pouvant à ses yeux maintenir une organisation stable. Égalité de conditions voulait donc dire, pour les juristes d'Ancien Régime, et Charles Loiseau est un bon exemple, un monde complètement inorganique. Et c'est justement, au contraire, cette possibilité d'égalité des conditions qui a été ouverte dans la société moderne. Mais comment définir plus précisément cette société de semblables dont elle est l'expression ? Tocqueville note que la notion générale du semblable est obscure. Il a certes raison s'il veut indiquer par là que l'égalité imaginaire, c'est-à-dire l'égalité qualitative à laquelle elle correspond, ne peut se confondre avec une égalité réelle, quantitative, assimilée à une répartition. Mais il faut aller au-delà de cette distinction. Si l'auteur de la démocratie excelle à décrire en sociologue et aussi en psychologue, les effets de cette aspiration à la similarité, qui font une grande partie de la deuxième partie de la démocratie publiée en 1840, il n'en propose pas, en fait, une véritable conceptualisation. Penser la similarité implique de qualifier le régime des différences admissibles qui peuvent l'accompagner. La similarité, en effet, ne peut être conçue que dans la confrontation aux épreuves qui la menacent. Et c'est une formule de Sieyès qui peut nous guider pour commencer cette recherche. Les inégalités de propriété et d'industrie, dit Sieyès, sont comme les inégalités d'âge, de sexe, de taille, etc. Elles ne dénaturent pas l'égalité du civisme. Le problème pour Sieyès est ainsi que les différences qui subsistent entre les citoyens, ne s'érigent pas en une contre-nature, c'est-à-dire en un ordre artificiel, ce à quoi correspondent justement les privilèges. Dans ce cas, les distinctions deviendraient en effet des qualités essentielles, pour reprendre les mots que nous avons croisés récemment de Buffon. Mais où tracer précisément la ligne de partage ? Elle est clairement dessinée lorsque le privilège est constitué en termes juridiques, et au-delà. Nous avons par exemple aussi souligné que le terme de privilège avait souvent été entendu, en France comme en Amérique d'ailleurs, dans un sens extensif, comme synonyme de différence injustifiable. Force est cependant de constater qu'on ne peut guère avancer dans cette voie si on en reste à une définition essentialiste de la similarité. Comment, en effet, théoriser la différence entre une supériorité absurde et chimérique, que l'on refuse, et une simple supériorité des fonctions, pour employer le langage de Sieyès, que l'on accepte. Pour sortir de l'indétermination, il faut repartir d'une définition interactive. La similarité doit être comprise comme le fait de vivre ensemble. Et l'égalité est bien dans ce cas une relation. Elle renvoie à la vitalité d'une commune appartenance, à la qualité d'une proximité, à la facilité de l'échange. Penser l'égalité-similarité implique pour cela de définir ce que j'appellerais les conditions d'une secondarisation de certaines différences dans la vie sociale. Par ces différences dont on attend la secondarisation, j'entends essentiellement celles qui sont d'ordre économique, puisque c'est sur ce terrain que les possibilités de voir s'ériger un nouvel ordre inégalitaire sont les plus manifestes. Il y a trois façons d'envisager une telle secondarisation des différences. Et c'est sur ces trois modes que la secondarisation des différences a effectivement été envisagée, à la fois et pensée, dans les révolutions américaines et françaises. Premier mode, ce que j'appellerais une limitation-modération. Deuxième mode de secondarisation, la circulation des différences. Et troisième mode, la compensation-correction. Il y a là différentes façons d'éviter donc que les différences économiques ne deviennent dominantes et ne reconstituent des humanités séparées. Et le développement de l'esprit révolutionnaire de l'égalité, en Amérique comme en France, a été indissociable de cette triple appréhension. Première modalité de la secondarisation des différences, leur limitation. Limitation qui, je le dis tout de suite, s'est inscrite dans une vision précapitaliste de l'économie, ce qu'il est fondamental d'avoir bien en tête et ce sur quoi je reviendrai. La perspective d'une possible limitation des différences sociales pendant la période révolutionnaire n'est compréhensible que si elle est rapportée, en effet, aux représentations économiques dominantes de l'époque. Et c'est le débat sur le luxe qui a traversé tout le XVIIIe siècle qui en constitue probablement le meilleur analyseur. Il concentre en effet, même si c'est souvent de façon confuse, tout un ensemble d'inquiétudes et d'interrogations sur les liens de l'ordre social au monde de la richesse. On peut distinguer trois dimensions de cette appréhension du luxe au XVIIIe siècle. Auprès de toute une partie de la noblesse d'abord, l'essor de la consommation de produits manufacturés de luxe, en matière de vêtements ou d'équipage par exemple, suscite d'abord la crainte de voir se développer une véritable confusion des rangs. L'éclat des habits et le luxe des attelages avaient en effet longtemps assuré la visibilité de la distinction aristocratique dans l'ordre public. Une société est bien organisée quand les habits sont réglés pour distinguer les conditions, disait-on à cette époque. Et la possibilité pour des bourgeois de prendre l'apparence de gentilshommes irritait donc ceux qui pensaient qu'ils étaient définitivement protégés du commun par le privilège de la naissance. La noblesse sentait bien qu'un profond ébranlement de l'ordre établi pouvait résulter de cette tendance qu'avait un nombre croissant de bourgeois à s'habiller au-dessus de leurs conditions, comme on disait alors. La noblesse y voyait enfin le signe avant-coureur d'une insupportable transgression. On peut parler dans ce cas, et on a parlé, d'une critique aristocratique du luxe, qui considère celui-ci comme le vecteur d'une égalité rampante des conditions. Et on parlait aussi dans ce contexte d'un luxe niveleur des conditions. Cette dénonciation de type aristocratique se distinguait de ce qu'on pourrait appeler la discussion proprement économique sur les sujets. C'est un des plus grands thèmes de l'économie politique du XVIIIe siècle. Et des milliers de livres et d'articles seront publiés sur le sujet en Angleterre, en Écosse, beaucoup, et en France, en le consacrant comme un des thèmes clés de l'époque. Le problème qui occupait les esprits était de savoir si les objets de luxe relevaient d'une consommation productive ou improductive, le risque étant dans le second cas de favoriser l'essor d'une richesse artificielle et stérile. Et c'est Mélon le premier, dont l'essai sur le commerce de 1735 est un des premiers traités systématiques d'économie moderne, qui sera encouragé par Voltaire et par Hume, dont l'essai Of Luxury est de 1752, ils défendront ensemble la normalisation économique des produits de luxe en tant qu'objet de consommation parmi d'autres. Mais au-delà de cette question presque technique, pourrait-on dire, c'était plus largement le sens même de la civilisation moderne qui était interrogé de façon sous-jacente. Lorsqu'il réédite en 1760 son essai majeur « Of Luxury », Hume lui donne d'ailleurs significativement un nouveau titre, « Du raffinement dans les arts ». Et sa thèse consiste à soutenir que le raffinement des arts mécaniques, qui va de pair avec la production des objets de luxe, participe d'un phénomène global de développement, indissociablement économique et culturel. La même époque qui produit des grands philosophes et des grands politiques, des célèbres généraux et des poètes renommés, écrit-il, abonde aussi, d'ordinaire, en tisserands habiles et en bons constructeurs de vaisseaux qui font le luxe. Plus important encore, aux yeux de Hume, ce progrès conduit à faire sortir les hommes de l'isolement dans lequel les tenait la lutte pour la subsistance. Il les rapproche, multiplie leurs échanges et conduit, je le cite, à ce qu'ils se sentent un supplément d'humanité. Admet donc, de la sorte, une véritable société civile. Cet humanisme commercial, dont Hume s'était fait l'un des principaux champions, avait ses détracteurs. Ils étaient nombreux. Figuraient d'abord dans leur rang ceux qui ne voyaient que salut que dans l'agriculture, seul susceptible à leurs yeux de fonder une prospérité durable. Et en France, c'est Mirabeau et Quesnay qui se feront les champions particulièrement éloquents et influents de cette appréhension des choses. Et leur physiocratie exercera durablement son influence, alors même que les arguments techniques qui la fondaient en théorie économique auront été invalidés. Et dans toute l'Europe de la fin du XVIIIe siècle, il y aura un véritable mouvement d'agromanie qui fera se rejoindre une certaine aristocratie terrienne qui redoutait justement le nouveau monde du commerce et de l'industrie, avec tous ceux qui voyaient dans l'essor du commerce un ferment de corruption des mœurs et de dissolution des sociétés. Stigmatisation du luxe, dénonciation du capitalisme financier et célébration de l'agriculture iront de la sorte longtemps de pair. Mais plus profondément encore que ces deux types de critiques du luxe, une critique ou une appréhension de type économique, une appréhension sociologique à travers la critique aristocratique, le long débat sur le luxe a révélé la forte influence rémanente en Europe d'idées politiques et morales issues de l'ancien humanisme civique, dont le jansénisme avait constitué culturellement un vecteur indirect. Elle jetait la suspicion sur tout ce qui était susceptible d'altérer les vertus individuelles et politiques. Et la frugalité et la mesure étaient considérées dans ce cadre comme des valeurs essentielles pour que les individus arrivent à maîtriser leurs passions et pour que la société reste bien ordonnée. Et depuis le XVIIIe siècle, de nombreux écrivains réclamaient dans cet esprit la mise en œuvre de ce qu'on appelait les lois somptuaires, c'est-à-dire des formes d'impôts supposées limiter l'asservissement des hommes aux richesses, en taxant les produits de luxe notamment. Et même un Adam Smith participait de cette vision. Il y a chez lui toujours une apologie, même ouverte, de la frugalité, qui avoisinait avec la célébration des vertus de la division du travail et de l'accroissement des échanges. Le père fondateur de l'économie politique n'était en aucune façon un chantre de ce que nous appellerions aujourd'hui la société de consommation. L'estomac du riche, avait-il écrit de façon fameuse, n'est pas en proportion avec ses désirs, il ne contient pas plus que celui du villageois grossier. On peut dire qu'Adam Smith restait en ce sens toujours pénétré de l'esprit du républicanisme civique. Chez lui, l'économie n'avait pas perverti la société. On peut le juger sur ce point naïf avec nos regards d'aujourd'hui, mais on saurait douter que c'était sa conviction profonde. D'ailleurs, dans un des tout premiers textes qu'écrit Adam Smith, qui est un texte consacré à discuter le discours sur l'origine de l'inégalité de Rousseau, il célèbre le véritable esprit républicain de Rousseau, reprochant simplement à Rousseau d'avoir peut-être poussé un peu trop loin cet esprit républicain. Mais il ne nie pas la nécessité de cet esprit républicain. Et c'est avec ces éléments en tête qu'il faut appréhender l'importance d'une dénonciation que l'on a justement qualifiée de patriotique du luxe au XVIIIe siècle. Cette dénonciation patriotique du luxe allait de pair avec la vision d'une société bannissant de trop grandes inégalités et faisant en sorte que les intérêts particuliers ne cannibalisent pas toute l'énergie collective. La dissertation sur le vieux mot de patrie de l'abbé Coyer de 1755 traduit parfaitement sur ce point un état d'esprit alors très répandu. Coyer est un homme de lettres typique de son temps, lui doit des ouvrages de morale, d'économie politique, même des récits de voyage, des utopies également, un plan d'éducation publique. Il a vraiment couvert la gamme, je dirais, des essais classiques de la période. La patrie, écrit Coyer, est une mère qui chérit tous ses enfants, qui ne les distingue qu'autant qu'ils se distinguent eux-mêmes, qui veut bien qu'il y ait de l'opulence et de la médiocrité, mais point de pauvres, qu'il y ait des grands et des petits, mais personne d'opprimé, qui, même dans ce partage inégal, conserve une sorte d'égalité en ouvrant à tous le chemin des premières places. Ce qui nous manque, c'est de penser en commun. Si, poursuit-il, dans une nation, on voyait comme deux nations, la première remplie de richesses et d'orgueil, la seconde de misère et de murmures, l'une se croyant heureuse vis-à-vis du malheur de l'autre, si on y voyait deux parties s'attaquer, on n'y entendrait pas le mot de patrie. Cette sensibilité se retrouve chez des auteurs qui sont par ailleurs loin de partager les mêmes vues politiques et constitutionnelles. Montesquieu et Rousseau ont notamment des formulations parfois très proches pour stigmatiser le luxe et les différences sociales excessives qu'il alimente. Et les termes de frugalité et de modération se trouvent ainsi à de nombreuses reprises sous la plume du premier, qui va même jusqu'à parler, Montesquieu, des désordres de l'inégalité. Tandis que le second, Rousseau, juge, je le cite, que le plus grand mal est déjà fait quand on a des pauvres à défendre et des riches à contenir. Et l'auteur du Contrat social parle lui aussi de modération nécessaire de l'appétit des richesses, de médiocrité souhaitable des situations dans une république et, j'y reviendrai, d'équilibre des différences. C'est un idéal de mesure qui s'exprime ainsi chez ces différents auteurs. Le but n'est pas de valoriser en soi une quelconque forme d'égalitarisme économique. Il est surtout de maintenir la possibilité d'une communauté politique. À l'égard de l'égalité, dit en ce sens Rousseau, il ne faut pas entendre par ce mot que les degrés de puissance et de richesse soient absolument les mêmes, mais que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. Même un esprit beaucoup plus radical, comme Méliès, appréhende les choses de cette façon. Si la vision d'une souhaitable communauté des biens a fait de Méliès avec Morelli le grand précurseur de Babeuf, il est resté guidé par un idéal de mesure et d'équilibre dans l'ordre de la distribution économique. Méliès admet même qu'une communauté d'hommes ne peut se maintenir sans qu'il y ait quelques dépendances et quelques subordinations entre eux. C'est une concession sous sa plume importante. Mais c'est pour ajouter aussitôt, il faut que cette dépendance et que cette subordination des uns aux autres soient justes et bien proportionnées, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle aille jusqu'à trop élever les uns et à trop abaisser les autres, ni à trop donner aux uns et à ne rien laisser aux autres. Ce dont il faut se garder, c'est d'une disproportion manifestement injuste et odieuse. Donc c'est un vocabulaire de l'équilibre, c'est un vocabulaire de la proportion qui est employé pour parler des distinctions économiques et non pas un vocabulaire de l'arithmétique. Il faut bien avoir en tête cet arrière-fond pour comprendre l'esprit d'égalité pendant la Révolution française. La majorité des constituants en seront imprégnés de cette culture civique qui résonnait en termes d'équilibre des différences et de modération des inégalités. Culture qui faisait aisément consensus parce qu'elle s'était forgée dans un monde que l'on pourrait dire pré-capitaliste, qui n'avait pas encore été soumis à l'épreuve de la perturbation sociale radicale que va engendrer la révolution industrielle. Il est alors beaucoup plus facile d'imaginer une économie supportable des distinctions de fortune lorsque ces dernières, pour reprendre l'expression de Sieyès, ne dénaturent pas l'égalité du civisme, car elles ne se cristallisent pas vraiment dans des mondes séparés. Cette secondarisation de la question des inégalités économiques tient ainsi au fait que les différences de situation qu'elles pouvaient traduire n'étaient pas a priori assimilées à des écarts de conditions. Des différences de situation, mais pas des écarts de conditions. C'est ce qui explique que la perspective d'une égalité redistributive a été aussi peu présente pendant la Révolution française. En 1791, un Fauché a été très isolé lorsqu'il a proposé devant un public pourtant progressiste, entre guillemets, la Confédération des Amis de la Vérité, de redistribuer les propriétés. Et le compte-rendu de la réunion publique dans laquelle il avait fait cette proposition, qui est relatée par la bouche de fer, indique même qu'il fut sifflé pendant une longue demi-heure pour avoir proposé cette idée, dans un public, je le répète, pourtant choisi. Et bien d'autres projets de nivellement des fortunes ont certes été formulés. En 93, l'idée de loi agraire, par exemple, va ressurgir régulièrement. Et l'adoption de la législation du maximum a aussi entraîné dans son sillage l'élaboration de propositions égalitaristes redistributives radicales. Mais même en ces moments, la perspective générale est restée celle d'une différenciation raisonnable des fortunes, accompagnée de la possibilité pour tous d'accéder à une forme de propriété. Si le fameux « Manifeste des égaux », rédigé au crépuscule de la Révolution par Sylvain Maréchal, le compagnon de Babeuf, sera considéré au XIXe siècle, lorsqu'il sera publié par Buonarroti en 1828, comme le texte fondateur du socialisme moderne, ce qu'il contenait n'a recueilli alors aucun écho. Et l'état d'esprit, il faut le souligner, n'est alors guère différent outre-Atlantique. Dans les années 70 et 80, 1770 et 1780, la critique du luxe y est aussi formulée dans les mêmes termes qu'en Europe. Et l'idéal américain de l'époque est celui d'une société relativement homogène dans laquelle les inégalités économiques n'alimentent aucun ressentiment parce qu'elles sont limitées et ne divisent pas la société en blocs étrangers ou hostiles. Et rien ne témoigne mieux de cette vision des choses que les écrits de Benjamin Franklin, qui constituent une expression presque parfaite de ce qu'on pourrait appeler l'idéologie américaine de l'époque. Dans un avis à ceux qui voudraient s'établir en Amérique, il se félicite, par exemple, qu'il y règne une heureuse et générale médiocrité et qu'il n'y ait ni les insolentes fortunes ni la misère que l'on pouvait alors trouver en Europe. Dans la science du bonhomme Richard, dont chaque foyer possédait un modeste exemplaire de colporteur, c'est ce même idéal qu'il appelle ses concitoyens à maintenir vivant. L'histoire de l'Amérique et les vertus de ses habitants devait ainsi permettre pour lui l'existence d'une forme de société dans laquelle les inégalités seraient également secondarisées. Et l'avenir de l'Amérique, il faut le rappeler, était alors beaucoup plus volontiers pensé par les pères fondateurs sous les espèces d'une Sparte chrétienne que sous ceux d'un capitalisme destructeur. La deuxième façon de penser la secondarisation des différences est la circulation des différences. Le privilège, en effet, n'est pas seulement défini par le type de distinction matérielle ou symbolique qu'il introduit. Il est aussi une fonction du temps. Le propre du privilège est d'inscrire les différences dans la durée, de figer le monde et pour justifier l'instauration de cette immobilité, le privilège se réfère toujours à une dette des origines, dont il ne ferait que payer les intérêts, ou à une distinction première dont il entretiendrait la mémoire. Le privilège est pour cela indissociable d'une vision des choses dans laquelle c'est le passé qui gouverne les hommes. Il s'enracine dans la revendication d'une tradition et entend se légitimer en permettant la reproduction d'un ordre originaire considéré comme fondamentalement juste. Et c'est donc par son caractère de permanence que le privilège institue une insupportable contre-nature. L'esprit d'égalité s'érige contre ses prétentions en lui opposant les droits du présent et en affirmant la nécessité de régler les relations entre les hommes sur leurs activités immédiates et non plus sur des partages hérités de leurs pères. L'égalité des conditions est comprise de cette façon comme une nécessaire mobilité des conditions. Je rappelle d'ailleurs que lorsque Tocqueville était amené à définir l'envers de l'égalité des conditions, il disait l'inégalité permanente des conditions. C'est-à-dire que l'envers de l'égalité des conditions, ce n'est pas simplement l'inégalité des conditions, c'est l'inégalité permanente des conditions. Et l'économie politique du XVIIIe a accompagné sur ce point la révolution des esprits en définissant l'économie moderne à partir de ce critère de circulation. L'économie commerçante s'est liée à la vision d'un incessant mouvement de marchandises qui entraînait dans son sillon celui des hommes. Et l'économie de marché était comprise de la sorte comme le moteur d'une destruction de la société d'ordre, comme sapant les fondements même des vieilles distinctions de rang. On peut dire que le père fondateur de l'économie politique écossaise, si on considère que le père fondateur de l'économie morale, c'est Mandeville et la fable des abeilles, c'est John Millar. Et l'ouvrage maître de John Millar, qui a beaucoup inspiré Adam Smith, mais comme il a été publié 7 ans avant La richesse des nations, il a été un peu éclipsé par La richesse des nations, publié en 1776. Son livre, c'est Observations concernant la distinction des rangs dans la société. Le premier grand traité d'économie politique écossais, c'est une réflexion sur le lien entre l'économie et la distinction des rangs. Et ce que souligne ce précurseur d'Adam Smith, c'est que le fait même de l'économie moderne produit une forme de fluctuation dans les propriétés, que l'économie moderne est destructrice de ce qui faisait le pouvoir de la noblesse, à savoir l'attachement à ce qui était le plus fixe, la terre. Et nous discuterons plus loin le caractère utopique qu'avait cette appréhension de l'économie de marché. Mais on ne peut douter du caractère révolutionnaire qu'avait alors cette description, qu'elle permettant de comprendre comment l'argent a pu être appréhendé à un moment en Amérique, puisqu'en Europe, il est vrai, c'est une formule américaine comme le grand niveleur. Avant que son accumulation ne finisse par le constituer en une nouvelle féodalité, il en est fait bien eu une puissante fonction de bouleversement des anciennes hiérarchies. L'effet égalisateur de la circulation des différences a également procédé de façon plus durable d'un ressort psychologique. Si l'individu s'affirme comme une liberté, la plénitude de son existence s'identifie en effet à une capacité de se projeter dans le temps, de ne plus être assigné à une place, enfermé dans un état donné. C'est en ce sens qu'il faut comprendre le terme d'égalité imaginaire. Il ne correspond pas tant à la formation d'une représentation quelconque, à l'évocation d'un état spécifique à venir, qu'au fait de considérer comme ouverte pour soi la possibilité d'un changement de situation. C'est l'idée de possibilité dans son indétermination même qui est essentielle. Rousseau note à ce propos, je le cite, c'est la nouvelle Héloïse, « Tous les États sont presque indifférents par eux-mêmes pourvu qu'on puisse et qu'on veuille en sortir quelquefois. » Un monde de semblables se définit dans ce cadre comme celui dans lequel chacun peut se projeter dans la condition des autres, que ce soit sur le mode avantageux d'une amélioration de son sort ou sur le mode pessimiste d'une crainte de se retrouver dans une situation dégradée. se forme sur ce mode de l'égalité imaginaire, un équilibre psychologique entre l'envie et la compassion qui établit la similarité comme un rapprochement psychologique d'autrui, une capacité légitime ou réaliste à s'assimiler à son histoire, à se l'approprier. Et la proximité, pourrait-on dire, n'est pas dans ce cas une donnée de situation, mais une variable de projection. Sieyès a parlé de façon frappante d'égalité d'espérance. C'est la première formulation, pourrait-on dire, de l'égalité des chances. On la trouve, la notion d'égalité d'espérance. Pour traduire cette construction par la temporalité de ce qui est perçu comme une relation égalitaire. Et c'est donc la perpétuité sous toutes ses formes qui menace l'égalité autant que les monopoles et les privilèges. Tel est un des leitmotifs des révolutionnaires américains et français. La Constitution de Caroline du Nord note en 1776 que les perpétuités, les modèles et les monopoles sont contraires au génie de l'État et ne doivent en aucune façon être permis. Et la centralité qu'a eue des deux côtés de l'Atlantique la discussion sur le droit des successions s'explique de cette façon. Le premier à avoir écrit de façon très éloquente sur le droit des successions en Amérique, c'est bien sûr Jefferson, dans ses notes sur l'État de Virginie. Et la législation du droit des successions dans l'État de Virginie présentera tous un certain nombre de particularités. L'idée de Jefferson étant, pour reprendre sa fameuse formule selon laquelle la terre appartenait aux vivants, de ne pas faire de l'héritage une variable destructrice de la possibilité pour chaque génération de se reconstruire. Et la question du droit des successions a également été vivement débattue pendant la Révolution française. Elle a d'abord été liée à la mise en place de règles uniformes là où régnait un maquis de dispositions coutumières différentes. Et le travail d'uniformisation était particulièrement sensible dans ce domaine, tant il touchait à la vie intime des familles, à des habitudes séculaires. Et c'était le fonctionnement général de la société qui était en jeu, pas seulement la situation d'une minorité, celle de la noblesse. Nobles et roturiers étaient en effet également concernés dans la plupart des cas, lorsque les coutumes admettaient par exemple le droit d'aînesse, accorder des préférences aux héritiers mâles par rapport aux héritiers femmes, ou définissaient des régimes particuliers selon les différentes catégories de biens ou selon leurs conditions d'acquisition. Il était très fréquent dans le droit coutumier de distinguer les acquis et les propres de succession, de distinguer les propres paternels et les propres maternels. Il y avait des droits distincts pour les biens selon leurs conditions d'acquisition. Et les spécificités juridiques qui concernaient les biens appartenant aux familles nobles étaient peu nombreuses, d'où le silence très général des cahiers de doléances sur cette question des successions. Mais l'Assemblée constituante se devait d'intervenir dans un domaine où, bien sûr, la question de l'égalité se posait à l'intersection de la vie de famille et de la vie de la société. Et un décret de 1791, le premier sur le sujet, a proposé un principe d'égalité absolue entre les héritiers dans les partages ab intestat, c'est-à-dire les partages dans lesquels il n'y a pas eu de testament. La disposition avait été adoptée, mais ça n'avait pourtant pas été sans difficulté. Pour la faire adopter, il avait en effet fallu souligner l'effet mécanique de morcellement des propriétés, et notamment des propriétés foncières de la noblesse, qui en résulterait. Mais il y avait eu de très nombreuses résistances au sein de l'Assemblée constituante. Et un des éléments qui avait été le plus discuté à la Constituante est celui du régime des donations et de la liberté de tester. Il y a d'ailleurs une section concernée du projet qui avait effet et limite des dispositions de l'homme. La question, en effet, était de savoir si les volontés individuelles pouvaient l'emporter sur les conventions sociales en matière d'égalité. Et c'est Mirabeau qui a rédigé à cette occasion, à quelques jours de sa mort, un de ses plus fameux discours pour inviter ses collègues, dans tous les cas, à imposer l'égalité successorale, en déclarant nulle toutes les dispositions testamentaires qui auraient conduit à avantager tel ou tel héritier. La volonté individuelle, argumentait Mirabeau, ne peut instituer, en fait, par une sorte de loi personnelle, ce que la loi publique refuse d'admettre, des distinctions légales. Et la liberté de tester, c'était cela pour Mirabeau. Elle pouvait créer artificiellement un riche et des pauvres dans une même famille. Elle pouvait transformer ainsi les relations d'un père avec ses enfants en un rapport de pouvoir entre, je le cite, un protecteur hautain et d'obscurs subordonnés. Les testaments, disait-il encore, ne sont d'une certaine façon que des instruments de vanité. Quand des hommes veulent en faire l'outil d'une distinction posthume, ils cherchent à faire vivre dans leur imagination tout un ensemble de descendants qui pourront entretenir leur image passée. Et la volonté des individus posait ce problème qu'elle conduisait à faire revivre sous les espèces du testament des inégalités de cette façon que l'on pouvait dire féodale. L'égalité des successions est au contraire en plein accord avec le nouvel esprit des institutions. Mais au-delà de la nécessaire égalité entre les cohéritiers, qui ne sera pas acceptée à la suite pourtant du plaidoyer vibrant de Mirabeau, il faudra attendre l'an 2 pour qu'on mette l'accent, on accepte l'égalité entre les héritiers en mettant l'accent sur les effets de morcellement généraux des propriétés qui en résulteraient. Et on avait insisté sur le fait que c'était un moyen de prévenir la reproduction des inégalités. Et le législateur avait même envisagé un moment de plafonner le montant des successions. Et on trouve même, à côté du droit classique des successions, un certain nombre de propositions originales. Je cite par exemple celle de Billaud-Varenne, qui avait proposé de mettre en place un système de succession nationale où, à partir d'une certaine somme, les successions seraient soit confisquées, soit taxées, pour constituer un fonds qui serait redistribué aux enfants de familles démunies. C'est tous les systèmes d'allocation très à la mode aujourd'hui. Si vous lisez les principes, les éléments du républicanisme de Billaud-Varenne, il a tout un chapitre sur ce système de succession nationale, dans lequel il y a en quelque sorte une redistribution générationnelle du capital social qui peut s'opérer. Et c'est dans le même idée d'une circulation des richesses et donc d'une circulation des différences qui a été proposé aussi en 91 le fameux partage des biens communaux. Partage des biens communaux qui, dans la société française de l'époque, a été un élément fondamental d'égalisation des propriétés et de distribution d'une petite propriété à beaucoup de personnes dans le monde rural. Mais il y a un troisième mode de gestion des différences, troisième mode de secondarisation des différences. Après la limitation, après la circulation des différences, on peut parler d'un mécanisme de correction des différences. Pour bien comprendre de façon sensible comment était abordée cette idée de correction des différences pendant la Révolution, je voudrais commencer en citant un passage de la Nouvelle-Héloïse. Le passage de la Nouvelle-Héloïse dans lequel Rousseau raconte le moment des vendanges et l'atmosphère particulière qui caractérise ce moment des vendanges. Voilà ce qu'écrit Rousseau. « Le soir, on revient gaiement tous ensemble. On nourrit et on loge les ouvriers tout le temps de la vendange. Et même le dimanche, après le prêche du soir, on se rassemble avec eux et l'on danse jusqu'au souper. Les autres jours, on ne se sépare point non plus en rentrant au logis. Tout le monde se met à table, maître, journalier, domestique. Chacun se lève indifféremment pour servir sans exclusion, sans préférence. La présence de maître si respecté contient tout le monde, mais n'empêche pas qu'on soit à son aise et gai. Pendant quelques jours, quelques semaines au maximum, le vigneron et les vendangeurs forment ainsi une société particulière. Alors que la ville ou le bourg les tiennent à l'écart, chacun vivant dans son univers propre, engoncé dans ses habitudes, vivant selon son état, le temps des vendanges suspend la coupure qui les sépare ordinairement. Il y a alors, pourrait-on dire, une sorte de résorption des distinctions sociales dans la chaleur simple des veillées et des repas partagés. Pour qualifier cette situation dans la Nouvelle Héloïse, Rousseau évoque les Saturnales, ces fêtes romaines au cours desquelles maîtres et esclaves se retrouvaient dans les réjouissances sur un pied de complète égalité et parfois de complète licence. Mais les situations ne sont pourtant pas vraiment comparables. Les Saturnales, en effet, comme toutes les fêtes d'inversion, fonctionnent comme des soupapes de sécurité de sociétés fortement hiérarchiques. Elles contribuent à entretenir la dépendance et la soumission en manipulant d'une certaine façon l'imagination des dominés. Le moment des vendanges n'est pas du même ordre cathartique. Il n'entretient aucune équivoque passagère sur la vérité des situations, contrairement à toutes les fêtes d'inversion. Il participe plutôt d'une économie apaisée et générale du lien social, dans laquelle entre sereinement en composition le fait des différences matérielles de fortune et la qualité des relations civiles. Il y a donc dans ce cas une sorte d'effet correcteur des différences. La qualité des relations civiles corrige les différences de quantité, pourrait-on dire, de différences de fortune. Et cette métaphore des vendanges permet de comprendre comment l'esprit de l'égalité peut s'accommoder de certaines formes d'inégalité économique. Au-delà d'une simple balance de l'inégalité des situations par une stricte égalité des droits, c'est sur le terrain de la civilité que se joue en fait aussi le sentiment égalitaire. Et Rabault-Saint-Étienne a très bien décrit le fonctionnement de ce qu'on peut appeler une économie de l'égalité, en montrant comment une forme d'égalité morale pouvait réduire la perception de l'inégalité matérielle. Considérant cette égalité morale comme la plus sûre, la plus vraie et la plus durable, je le cite, il précise pour la qualifier. J'entends par égalité morale cet état d'une société où tous les hommes vivant en frères, l'inégalité des fortunes et des conditions disparaît devant le sentiment de fraternité et de concorde qui domine sur tout et qui couvre tout. Dans une démocratie, l'égalité morale doit donc pour lui servir de correcteur, de correctif à l'inégalité économique. Elle conduit du moins à en tempérer la perception. Et c'est d'autant plus nécessaire, aux yeux de Rabault-Saint-Étienne, qui est une grande figure de la Constituante, que jamais, dit-il, vous ne pourrez faire qu'il n'y ait de l'inégalité dans les richesses. Pour lui, une politique de l'égalité se confond donc avec une nécessaire promotion de cette égalité des affections, comme il l'appelle, qui n'est autre chose que le sentiment de fraternité. Donnant comme modèle à cette perspective les Quakers, il qualifie dans les termes suivants le sens de l'égalité qui règne dans ces communautés Quakers. Il avait lu le très long article sur les Quakers qu'il y avait dans l'article sur l'Amérique de l'encyclopédie économique et diplomatique de Desmonnier. Il note « Ils vivent en frères, et cependant, les fortunes sont inégales entre eux. Mais l'orgueil du riche, la vanité insultante, y sont absolument inconnus. Ils ont saisi le véritable esprit de société qui est la fraternité, de manière que l'homme peu riche vit dans la société de l'homme fortuné. C'est donc vivre dans la même société, ne pas être séparé. Tel est bien, aux yeux de Rabault-Saint-Étienne, le sens de l'égalité morale, qui corrige sur le mode d'une proximité la propension qu'ont les distinctions économiques à engendrer mécaniquement des mondes sociaux séparés. » cette comparaison, enfin cette image, cette métaphore des Quakers avait été ensuite reprise par toutes les adversaires de la Révolution, dont Necker, qui dira par exemple « L'idéal de la Révolution, c'était de faire de la France une société de Quakers politiques ». C'est une expression que l'on trouve dans ses réflexions philosophiques sur l'égalité. Et l'idée de fraternité tire de cette vision sa centralité pendant la Révolution française. Juristes et philosophes ont significativement toujours eu des difficultés pour intégrer la notion de fraternité dans un cadre conceptuel structuré, tant elle semblait n'évoquer qu'une sentimentalité fuyante ou un terme qui résistait à la rigueur des définitions juridiques ou à la rigueur des définitions politiques ou même à la rigueur des définitions sociologiques. Et les historiens, depuis Michelet, avaient expliqué de leur côté que l'usage de ce mot, qu'ils reconnaissaient aussi insaisissable qu'omniprésent pendant la Révolution, aussi omniprésent dans le langage que dans les images, participait en fait essentiellement d'une culture de l'unité nationale. Et qu'en 1790, l'idée de fraternité, qui prend chair effectivement et qui se développe à partir du grand rassemblement de la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, est directement liée à l'idée de participer d'une vie et d'une fête de famille. Et Michelet notait, à propos de cette allégorie de la fraternité dans les grands rassemblements de la Fédération, « N'oublions pas que la Révolution est l'époque unanime, l'époque sainte où la nation tout entière, sans connaître encore ou bien peu les oppositions de classe, marche sous un drapeau fraternel. » La fraternité était donc pour lui une sorte de pré-société, était une sorte de modalité de la vie commune qui était celle de la confusion, dans lequel il n'y avait pas encore d'individualité qui s'exprimait, dans lequel il y avait simplement l'unanimité qui régnait. Et la référence à la fraternité peut être comprise dans ces termes comme étant, d'après Michelet, à la fois une qualité et une métaphore de l'union et de la nation. Avec le sentiment de proximité auquel elle renvoyait, elle était appelée à accompagner et à contrebalancer une conception fort abstraite de la volonté générale et du grand tout citoyen. Et en quelque sorte, donc, on pourrait dire une espèce d'économie de la sensibilité à laquelle participe indéniablement la notion de fraternité. Cette économie de la sensibilité, elle vise à contrebalancer, je dirais, les conditions dans lesquelles s'affirme de façon extrêmement abstraite le grand tout national, les conditions très abstraites dans lesquelles est défini l'intérêt général. Et on voit par exemple qu'au plus fort de la terreur, il y a en permanence un discours qui oscille entre l'exaltation des grands principes et la célébration de l'amitié la plus rapprochée. Et le langage de Saint-Just en 1794 est le plus typique de cette nouvelle économie de la sensibilité qui mêle le plus abstrait et le plus immédiat, qui mêle le plus familial et le plus référé à une idée générale de l'humanité. Mais il me semble que l'on peut aussi considérer d'une autre façon le thème de la fraternité dans la Révolution. Il n'est pas simplement une espèce d'adjuvant de la célébration de l'union des cœurs et de l'unanimité des esprits. On peut aussi le comprendre dans le cadre d'une économie générale de l'égalité. L'évocation d'un lien de famille entre les citoyens, les invite en effet à une sorte de rééducation du regard qu'ils portent les uns sur les autres. Elle les incite à se considérer en tant que semblables, en faisant abstraction de ce qui peut les éloigner, les diviser ou les différencier. Cette référence propose de corriger, par la chaleur des sentiments et des formes d'affection, les distances proprement fonctionnelles de la vie. La fraternité, d'une certaine façon, refuse l'enfermement de l'individu dans ses conditions concrètes d'existence. Elle suggère la possibilité d'une relation sociale qui devienne affranchie des apparences. Les inégalités matérielles, elles peuvent encore trouver une forme de correction dans la qualité d'un lien social plus neutre et plus quotidien, celui de la simple civilité. Cette civilité, nous le verrons la semaine prochaine, a été au cœur de l'établissement de la démocratie américaine. Mais elle a aussi joué un rôle clé en France. En France, la révolution de la civilité a été une des composantes majeures du nouvel esprit de l'égalité. Et la date du 19 juin 1790 n'évoque généralement rien pour la plupart des Français d'aujourd'hui, alors que nuit du 4 août a fini par devenir un substantif pour désigner la remise en cause radicale d'une situation donnée. Pourtant, le décret de ce jour, le 19 juin 1790, qui abolit les titres de noblesse et proscrit leur usage, en même temps qu'il interdit d'avoir des armoiries et de faire porter livrée, c'est-à-dire d'avoir des serviteurs, des domestiques dont les habits soient ses armes, a pourtant revêtu une importance symbolique équivalente. À partir de cette date, nul ne pouvait se prévaloir d'aucun titre ni faire précéder son nom de la particule « de ». Et les appellations d'excellence, d'altesse, d'éminence, de grandeur, etc., étaient légalement bannies du vocabulaire. Le nom de famille était le seul qu'il convenait dorénavant d'utiliser pour désigner un individu, dans les occasions de la vie quotidienne, mais aussi dans les actes administratifs et dans toutes les circonstances officielles. La révolution de la civilité compléter de la sorte celle du droit qui avait été opérée le 4 août. Et elle avait, pourrait-on penser, beaucoup moins de conséquences matérielles que l'abolition des privilèges. Il suffisait pratiquement, pour se conformer à la loi, d'effacer les armoiries qui se trouvaient au fronton du porche d'un hôtel, d'enlever des armoiries qui étaient sur la grille d'entrée du parc d'un château, et de ne plus faire porter d'uniforme à ses domestiques. À ces conditions-là, on était en accord avec la loi. C'était bien peu de choses. Et bien que voté à un moment où le processus révolutionnaire était déjà fort avancé, le texte n'en a pas moins soulevé un torrent d'indignation qui a contrasté singulièrement avec l'élan d'unanimité qui avait marqué l'adoption des mesures du 4 août. 138 députés nobles, soit plus de la moitié de ceux qui restaient encore membres de l'Assemblée constituante, ont en effet signé et publié une protestation solennelle contre le décret, alors qu'il n'y avait pas eu une seule protestation à la nuit du 4 août. La raison de cette différence, elle s'appréhende aisément. Le 4 août ne bouleversait que des intérêts, alors que le 19 juin, visait le cœur de la réalité aristocratique. C'était l'identité même de la noblesse, c'est-à-dire la représentation qu'elle se faisait de sa distinction sociale, qui était atteinte en plein cœur. Et les protestataires ne manquent d'ailleurs pas de rappeler qu'ils n'ont pas hésité à faire des sacrifices énormes le 4 août 1789, et reconnaissant sans difficulté que ces sacrifices étaient la juste contrepartie d'un principe d'égalité de tous en droit. Mais en même temps qu'ils affirment la justification pleine et entière de la nuit du 4 août, ils repoussent avec virulence ce qui apparaît à nos yeux comme une mesure de portée purement symbolique. Car le problème pour eux était justement que ce symbolisme de la distinction était essentiel. Et l'un d'eux oppose ainsi, parce qu'à côté de cette lettre générale, il y a eu tout un ensemble de protestations particulières qui n'ont pas été publiées au Moniteur universel, c'est très intéressant, mais qui ont été en revanche, après être retrouvées, publiées dans les archives parlementaires, Laurent Mavidal, pour un certain nombre d'entre elles. Mais le Moniteur de l'époque n'avait pas publié, n'avait publié que la lettre générale des 138. Et on trouve dans ces textes, formulés à plusieurs reprises, cette idée, une opposition entre l'égalité de droit, que l'on reconnaît bien sûr comme nécessaire, et l'égalité des conditions. La formule est remployée de nombreuses fois dans ces protestations comme, je cite, « une chimère philosophique ». Et Necker lui-même, qui est au pouvoir, se déchaîne et il adresse au roi une longue note lui suggérant d'adresser à l'Assemblée des observations critiques. En poursuivant dans les plus petits détails tous les signes de distinction, écrit le ministre, on court peut-être le risque d'égarer le peuple sur le véritable sens de ce mot « égalité ». Et effectivement, avec la révolution de la civilité, c'était bien en effet une barrière décisive qui s'effaçait, conduisant la question de l'égalité à rester comme toujours ouverte. Elle lui ouvrait de nouveaux champs. Et la question d'une civilité républicaine devenait pour cela indissociable d'une interrogation sur les formes de la constitution d'une société des égaux. Vision d'une civilité républicaine qui, je le rappelle, avait été traitée d'une double façon dans le passé, qui avait d'abord été traitée par toute la tradition des manuels de civilité à partir d'Érasme. Mais toute la tradition des manuels de civilité à partir d'Érasme mêlait en quelque sorte les notions de civilité domestique et de civilité sociale. Mais elle renvoyait encore plus encore à toute la tradition de l'humanisme civique qui s'enracinait dans la lecture des auteurs anciens. La révolution de la civilité, c'était donc une troisième façon, pourrait-on dire, de penser l'équilibre que certains appelaient de leur vœu en matière d'inégalité. Non pas supprimer arithmétiquement les inégalités, mais trouver un régime des différences qui ne constitue pas une contre-nature. Régime des différences qui ne constituait pas une contre-nature, car il était fondé sur une limitation, sur une circulation et donc sur une correction de ces différences. Et ces trois modalités ont été aussi souvent affirmées en France qu'en Amérique pendant cette période. Comme d'habitude, je m'arrête deux minutes avant de reprendre.